cette encyclopédie sonore va se consacrer tout d'abord au manioc, une civilisation. Vous entendrez d'abord l'ethnobotanique du manioc, puis la civilisation du manioc amer d'Hispaniola ou Saint-Domingue, la préparation du manioc amer sur les habitations et les dérivés du manioc chez les Amérindiens et leurs successeurs, dont nous-mêmes, et enfin la diffusion du manioc. Aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de l'ethnobotanique du manioc. Savez-vous qu'il existe une encyclopédie du patrimoine culinaire de la France consacrée à la Martinique? Non, ça ne m'étonne pas. Moi-même, j'ai failli la rater. Elle a pourtant été imprimée et financée par le Conseil régional de la Martinique, la région Martinique, et elle a été éditée à Paris. Dedans, je trouve des choses assez confuses concernant le manioc. C'est ce qui m'a amené à vous proposer des éclaircissements. Commençons par un. Aujourd'hui, nous parlons de l'ethnobotanique du manioc. Le manioc appartient à la famille des Euphorbiacées, tribu des Jatrophées, genre maniote. Les étudiants en sciences s'y retrouveront. Le genre maniote renferme deux espèces alimentaires qui se distinguent nettement par leurs propriétés. Le manioc amer, maniote utilissima, ou Jatropha maniote, ou maniote exculenta, qui contient de la maniotoxine, la vieille eau, comme disent les Caraïbes de la Dominique, que nous avons rencontré samedi, la vieille eau de manioc qui est un poison, un principe vénéneux qui donne de l'acide cyanhydrique. Quelques secondes et vous êtes mort. Mais vous avez heureusement le manioc doux, maniote palmata, maniote aipi, maniote dulcis, qui est une plante de plus petite dimension, à tige plus dressée, et qui lui se mange, comme son nom l'indique, avec délectation, sans aucun risque. Pas de poison avec le manioc doux. La variété de manioc la plus fréquente en Amérique amazonienne est bien sûr insulaire, la nôtre, et le manioc dit amer. Le manioc doux, que nous appelons en créole des Antilles camanioc et en créole de Guyane cramanioc, lui a toujours été beaucoup moins cultivé. Qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Eh bien, je vais vous parler de la découverte de ce manioc par Christophe Colomb. Lors de son premier voyage, il rencontre les habitants de l'île qu'il va baptiser Hispaniola, nom que les Haïtiens récusent, qui les fait bondir, et qui s'est appelé donc ensuite Saint-Domingue, et qui aujourd'hui se divise entre Haïti et la République dominicaine, comme vous le savez. Sur cette île vivaient des Taïnos, et ces Taïnos vivaient de manioc qu'ils appelaient yucca. Ce manioc, curieusement, ils ne le consommaient pas immédiatement après avoir sorti de terre. Ils le consommaient après une longue préparation mystérieuse qui donnait le casabi, c'est-à-dire la crêpe que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de cassave. Et les Caraïbes alors? Eh bien eux, ils appelaient le manioc kiéri. On l'appelle d'ailleurs toujours comme ça. Sur les côtes de Guyane, les Galibis l'appellent kiéri. La crêpe, quant à elle, notre cassave, les Caraïbes et les Galibis l'appelaient marou. C'est ce que nous apprend le dictionnaire du père breton, rédigé en 1665. Comment se fait-il que de ces mots yucca, casabi, kiéré, marou, les colons français et nos successeurs créoles n'avons reçu que le nom Taïnos de la crêpe, casabi, transformé par les Espagnols en cassave et qui est devenu cassab. Peut-être nous ont-ils aussi laissé camagnem. Le père breton, dans son dictionnaire, signale que c'est le nom que les Caraïbes donnent au manioc doux. Camagnem a peut-être donné camagnoc, mais peut-être que camagnem n'est pas un mot caraïbe, mais un mot d'une autre région. Quelle est cette autre région? Eh bien, quand on regarde le vocabulaire français relatif à cette plante, on découvre qu'il a presque exclusivement une origine plus lointaine que les Caraïbes ou les Arawaks ou les Taïanos, et en même temps plus proche des racines, des origines de la civilisation du manioc amer dont je vous parlerai dans une prochaine session ou séquence, comme vous voulez. Ce Brésil, Jacques Petitjean-Roger, un historien de la Martinique, l'inventeur de la société d'habitation qui est bien méconnue, quoique bien copiée, eh bien Jacques Petitjean-Roger nous avait depuis longtemps fourni l'explication de cette étrangeté lexicale. Ce n'est pas par l'intermédiaire des Espagnols que nous avons appris l'utilisation de cette plante. Ce n'est pas non plus par celle des Caraïbes, c'est par celle des Brésiliens, entre guillemets. Qui sont ces Brésiliens? Eh bien, Normands et Bretons nous les font connaître dès l'année 1503. C'est attesté par des archives. Et ces Normands et ces Bretons, qui deviennent peu à peu français, viennent y chercher du bois Brésil, bois qui permet de teindre les vêtements, les tissus, en rouge, en braise, d'où le nom donné au pays. Et puis, peu à peu, ces Normands et ces Bretons fondent des postes un peu plus prolongés qu'ils appellent des loges. Dans ces loges, ils fréquentent les indigènes, ils se marient avec eux, ils laissent même de jeunes ans, appelés des mamelouks ou des truchements, pour qu'ils apprennent la langue du pays et puissent traduire aux Français qui reviennent chaque année. Et puis finalement, ils se disent qu'un vrai poste de colonisation serait plus rentable. Et entre 1555 et 56, nous avons une véritable colonie fondée près de la baie de Rio de Janeiro, d'aujourd'hui, par Nicolas de Villegagnon. Nous avons un récit de cette entreprise de colonisation par un moine catholique, André Thévet, et par un pasteur protestant, Jean de Léry. Et par ces deux écrivains qui font le récit et le publient en France, nous connaissons le vocabulaire du Brésil. Mais, bien avant, par la petite porte de l'oralité, les contacts entre Normands-Bretons et ceux qui vont se révéler aujourd'hui, nous appelons Tupi ou Tupi Guarani, c'est-à-dire les habitants du Brésil côtier, eh bien les échanges font naître une espèce de vocabulaire commun et surtout des glossaires ou mini-dictionnaires. Le plus ancien date de 1540. Il est toujours conservé à la bibliothèque municipale de Rouen. Et c'est en le consultant que j'ai découvert que les premiers Français appelaient mille la farine, est-ce que j'allais dire le couac, mais est-ce du couac? En tout cas, ça ne peut pas être du maïs, puisque le maïs n'était pas véritablement cultivé par les Tupis, ou en tout cas peu consommé. On découvre dans ce petit vocabulaire du livre de navigation de Jean Cordier, marchand de Rouen, ce mot ou cette phrase Tupi. Mémorisé Kawin, donne-moi à boire. Kawin est un mot tupi qui désigne le kachiri ou le wiku. On constate qu'il n'y a pas de mot pour maniot, mais qu'il y a un mot pour le mil, qui, comme je vous le disais, est peut-être bien du couac, c'est-à-dire de la farine à gros grains de manioc, telle qu'on la consomme en Guyane française aujourd'hui encore. Jean de Léry écrit qu'en langue tupi, la racine alimentaire qui nourrit les gens qu'il rencontre au Brésil se nomme maniot, mot qui est devenu maniot, puis manioc dans la langue des îles, maniot et puis manioc dans les dictionnaires du français. L'appellation scientifique maniot utilissima est un hommage à l'origine tupi et une reconnaissance de l'extrême utilité de cette plante pour nos ancêtres. Ce mot n'est pas le seul à provenir du Brésil. Vous connaissez tous le migan. Eh bien, mingan est la bouillie de couac dont se rassasiaient les tupis, et c'est lui qui nous a donné le mélange un peu pâteux, hein, de fruits à pain et de sauce à viande ou au poisson, que l'on appelle migan, mais qui à l'origine donc était fait à base de manioc. Pour résumer, tous ces mots que je viens de vous dire, migan, manioc, achiri, tous ces mots permettent de localiser l'adoption du manioc par l'homme dans l'actuelle Amazonie brésilienne. Dans la petite encyclopédie dont je venais de vous parler, du conseil régional, eh bien on dit que c'est le nord-est du Brésil, mais que ça pourrait très bien être entre le Mexique et le Guatemala. Bon, en pleine zone déserte. On se demande où les gens qui ne veulent pas s'informer vont chercher leurs informations. En tout cas, tout ce que l'on sait du manioc permet de le situer dans les aires linguistiques tupi, arawak, c'est le nom qu'on a fini par donner aux Taïnos, et caribe, c'est-à-dire l'aire géographique du Brésil amazonien et de l'aire caraïbe, l'aire circumcaraïbe. Regardez, ou plutôt écoutez, les Anglais et les Hollandais l'appellent cassava, ça vient bien de casabi des Taïnos. Les Portugais l'appellent mandioca, ça vient du manioc des tupis. Et les Espagnols l'appellent yuca, ça vient du yuca des Taïnos. Quant au boni, eh bien, ils l'appellent bita cassaba. Cassaba, si je ne me trompe, c'est une déformation de cassave. Léry et Thévé, nos deux chroniqueurs des aventures françaises au Brésil, nous rapportent que manioc signifiait don de Dieu en langage tupi. Remarquez comme tous les Amérindiens qui se nourrissent du manioc amer croient que c'est à leur héros primordial, un véritable dieu humanisateur et même civilisateur, qu'ils doivent la révélation du secret de sa préparation. Sur le plan religieux, vous le voyez, le manioc définit une civilisation particulière. Les autochtones que rencontrent Espagnols et Français consommaient le manioc doux, sous forme de légumes, mais aussi le manioc amer, après râpage et une longue préparation. Nous verrons le détail de ces préparations et de ces utilisations dans un autre chapitre. Ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que les archéologues estiment, d'après les fouilles qu'ils ont faites et d'après les trouvailles d'argile, de poterie, que l'utilisation, la consommation du manioc permet de définir une véritable civilisation. Cette civilisation est restée très longtemps mystérieuse. Regardez, Christophe Colomb arrive en 1492 dans l'île qu'il baptise Hispaniola. On lui propose du manioc, mais on ne lui dit pas comment il faut le préparer. Et pendant longtemps, cela va être une catastrophe pour ces Espagnols. Regardez lorsqu'ils se jettent dans la jungle de la Colombie ou du Venezuela. En 1541, ils cherchent l'Eldorado. Je lis dans les chroniques de Cieza de León, un Espagnol qui accompagnait l'expédition. Le 26 décembre 1541, 10 mois après le départ de Quito, le Brigantin, c'est un petit navire qui pouvait remonter les fleuves, mit à la voile et fut rapidement emporté vers l'est par le courant. Après plusieurs jours d'attente, Pizarro décida de lever le camp pour reprendre la marche. Peu préparé à la survie dans un tel milieu, les Espagnols dévorèrent les derniers chevaux et les derniers chiens qui leur restaient. Après une deuxième reconnaissance, ils parvinrent au confluent du Cauca et du Napo. Là, ils remontèrent le principal fleuve jusqu'à un village indien où ils découvrirent de grandes quantités de manioc. Ceux qui n'avaient pas eu cette chance en étaient réduits à se nourrir de feuilles, d'herbes et du cuir bouilli de leur sel. L'arrivée d'une cargaison de manioc fut interprétée comme une bénédiction du ciel et l'ensemble de l'expédition gagna la région où avait été découverte cette précieuse ressource. Les malheureux affamés se gavèrent tellement de cette nourriture providentielle que beaucoup tombèrent malades. Il y en eut même deux qui moururent d'indigestion. Ainsi, dès le début, le manioc apparaît avec une espèce d'ambivalence aux yeux des Européens. On ne peut pas survivre en Amazonie, on ne peut pas survivre dans les Antilles sans manger du manioc. Mais si on mange n'importe quel manioc, on meurt, on risque d'être empoisonné. Il faut donc absolument connaître le secret de la préparation de ce manioc ou être capable de reconnaître le bon et le mauvais manioc, le doux et l'amer. Et cela, seuls les Amérindiens peuvent le faire. Or, ces Amérindiens, ils font tout pour les exterminer. Il va falloir engager une course de vitesse pour les Européens, apprendre très rapidement comment transformer, comment acquérir ce fameux secret qui transforme un poison en nourriture indispensable. Vous êtes bien sur Radio Campus FM, FM 96.7. Vous venez d'entendre le premier chapitre de l'encyclopédie sonore de Radio Campus qui était consacré à l'ethnobotanique du manioc. À tout à l'heure. Bonjour, vous êtes toujours sur Campus FM 87.7. Nous avons commencé la nouvelle série Encyclopédie sonore de Campus FM. Vous avez entendu tout à l'heure le premier chapitre de la série consacrée au manioc, une civilisation. Ce thème abordera successivement l'ethnobotanique du manioc, la civilisation du manioc amer d'Hispaniola et Saint-Domingue, la préparation du manioc amer sur les habitations et les dérivés du manioc, et enfin la diffusion du manioc. Comme vous êtes attentif, vous avez certainement remarqué que tout à l'heure, il était question de l'ethnobotanique du manioc. Nous passons maintenant à la civilisation du manioc amer. Vous avez peut-être remarqué, en m'écoutant tout à l'heure, que le manioc avait un aspect religieux, puisque c'était un don de Dieu pour les Tupis, que le manioc était presque indispensable à la survie des Taïnos de Saint-Domingue, comme des Caraïbes des Petites Antilles, et encore aujourd'hui des Galibis des Guyanes. Il nous reste à voir pourquoi tout cela, un peu de religion, un peu d'alimentation, cela débouche sur une notion de civilisation, alors que, quelque part, pour nos civilisations, ça renvoie un peu à civis, à cité. On dit qu'il y a une civilisation plus facilement lorsqu'on découvre des pyramides, des grandes constructions en pierre, des ruines, des vestiges, mais pas quand on trouve la forêt amazonienne et trois cases plantées autour d'un feu. Eh bien, précisément, le manioc amer a donné lieu à une civilisation parce que, à une culture pré-urbaine, avec des villes regroupant plusieurs milliers d'habitants, dans la grande île de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et Santo Domingo. Je vais vous raconter cela. Lorsque Colomb arrive dans l'île qu'il baptise Hispaniola, ses compagnons appellent les habitants des Taïnos, je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, en interprétant plus ou moins bien ce qu'on leur raconte et en comprenant plus ou moins bien, ils décident de les appeler Igneris. On trouve encore dans des ouvrages, même dans des livres de classe primaire à la Martinique, ce mot Igneris pour désigner des supposés ancêtres des Arawaks. En réalité, ce sont des Arawaks, de langue. Et Igneris veut dire homme. Beaucoup plus tard, les Européens s'interrogent sur ces langues. Qu'est-ce qui distingue un Taïnos, un Igneris, un Arawak, un Caribe, un Galibi? Et ils se rendent compte qu'au fond, la langue permet de distinguer deux grands groupes, Arawak, depuis les Guyanes à la Colombie, et en intégrant donc Saint-Domingue, et des Caribes, nos Caraïbes historiques, et les Galibis des Guyanes. Ils se rendent compte que cela ne suffit pas à aller bien loin pour définir une civilisation. Ils se sont donc intéressés à la culture matérielle de ces gens, particulièrement à leur poterie. C'est alors qu'ils ont reconnu une base commune à toutes ces civilisations et qu'ils ont parlé d'une civilisation du manioc amer, par opposition à une civilisation du maïs qui, elle, regrouperait les populations des anciens empires du Mexique ou des Andes, hein, Inca, Aztèque, Maya. Je vous parlais donc des platines à manioc. Eh bien, je vous en parlerai plus tard parce que là, je ne les retrouve pas. Et je continue avec le manioc proprement dit. Je voulais simplement vous dire qu'il est fondamental en archéologie de découvrir sur un site des Antilles ou de la Guyane de la poterie, parce que c'est cette poterie qui permet de reconnaître une civilisation amérindienne. Et dans la poterie, ce qu'on recherche, ce sont les morceaux de platine, c'est cette plaque en poterie qui, selon qu'elle est courbe ou creusée, nous donnera la façon dont on préparait les platines, qu'on préparait le manioc. Pour les Arawaks, l'alimentation de base était sous la forme de crêpes, nos cassaves, parce que le bord relevé de nombreuses platines à manioc ne possède pas de pied et est relativement, peu élevé. Alors que les Caraïbes ont des platines avec des pieds, on appelle ça des platines tripodes, et les rebords en sont très relevés. Ce qui veut dire que pendant la cuisson, eh bien, il fallait remuer la farine ou le couac pour éviter surtout qu'elle tombe dans le feu, d'où la nécessité de ces bords. Voyez donc que l'approche de la culture matérielle, la casserole ou la poêle à cuire, le manioc, apporte énormément de choses à ceux qui savent interroger les vieux tessons de poterie, les archéologues. Revenons à ces tupis, Taïnos, Arawak, Caraïbes, dont je vous parlais dans le chapitre précédent. Pour pouvoir consommer le manioc amer, il devait lui faire subir une préparation extrêmement élaborée. Fait inégalé, ces groupes amérindiens ont promis une substance toxique, ils l'ont promu au rôle d'aliment de base. Et c'est pourquoi on doit parler de civilisation. Réfléchissons un peu. Sur le plan technique, la transformation et la chimie de la plante que nécessite l'usage ou la consommation du manioc, sont en effet égales aux techniques agroalimentaires de notre civilisation industrielle. Sur le plan social et culturel, la production en masse de galettes ou crêpes de manioc ou bien de farine suppose une organisation complexe et donc pré-urbaine à laquelle les Taïnos sédentaires de Saint-Domingue étaient parvenus. Comment s'en est-on aperçu? C'est dans les années 1960 que les historiens démographes de l'université de Berkeley, en Californie, ont fixé entre 80 et 100 millions d'âmes la population de l'Amérique précolombienne. Mais, avec un regroupement de 90 à 95% de cette population, sur 5% seulement de la surface du continent. Fait remarquable, ces 5% sont largement occupés par l'île antillaise de Saint-Domingue, appelée Hispaniola par Colomb. Du coup, les deux membres de cette équipe se sont mis à étudier en particulier la population et les ressources alimentaires de cette population d'Hispaniola. Ils s'appellent Sower, Bora et Cook, et ils sont tous trois des chercheurs de l'université de Berkeley aux États-Unis. Ils découvrent que sur un sol volcanique, les populations Taïnos avaient réussi une association de cultures intensives mêlant manioc, patates douces et autres racines moins connues et dont on n'est pas sûr de l'identification. Las Casas, le fameux historien de la légende noire du fameux génocide des Amérindiens par les Européens, avait baptisé cette pratique culturelle conuco. Conuco, c'est un mot espagnol, ce n'est pas un mot amérindien. Conuco signifie une petite butte. Petite butte que Delavarde et Revers, deux chercheurs des années 1930, ont découvert à la Martinique en faisant des fouilles à Lens-Belleville aux prêcheurs. Ils ont trouvé un jardin caraïbe avec une série de petites buttes qu'ils ont appelées des montones, en empruntant encore une fois à l'espagnol, montones. Et ils les ont rapprochées d'un texte du père Breton que j'ai, quant à moi, retrouvé et que je vais vous lire. Vous connaissez tous, au moins de nom, le dictionnaire caraïbe français du père Breton qu'il a écrit et édité en 1665 après un séjour de plus de 20 ans en Guadeloupe. Il écrit dans Quiere, donc je vous disais que cela signifie manioc en caraïbe, « On coupe seulement du bois que les Caraïbes plantent en cette façon au lieu de houx. Ils ont un gros bâton aiguisé par le bout qu'ils piquent à deux mains et à coups redoublés. Lèvent de la terre de la largeur d'un boisseau dans laquelle ils enfouissent des bâtons de bois de manioc longs d'une coudée et plus, tantôt par le milieu, tantôt par les bouts. Les Français fouillent la terre de la longueur de 3 pieds en long et 2 de large, qu'ils appellent fosse de manioc. Plantent au milieu un bâton long de 4 doigts d'un côté, un autre de l'autre, jusqu'au nombre de 4. Ils le sarclent jusqu'à ce qu'il couvre sa terre. » À travers ce témoignage du père Breton, on se rend compte que les Français se sont appropriés l'agriculture du manioc, manioc doux ou manioc amer, et qu'ils la pratiquent pratiquement exactement comme les Amérindiens, en l'occurrence les Caraïbes. Simplement, ils remplacent le bâton fouisseur des Caraïbes par une houe. Et nous connaissons tous aujourd'hui dans le jardin créole la fameuse fosse à manioc. Elle n'a pas changé depuis la description de Breton en 1665. À Hispaniola, Saint-Domingue, le procédé était quand même un peu plus sophistiqué et surtout extrêmement développé en surface. Lorsque les plantes atteignaient 50 cm, on faisait un butage, on refaisait la butte et l'on procédait à un premier sarclage. Il y avait ainsi 1 ou 2 sarclages. Ces travaux s'effectuaient, je vous l'ai dit, au bâton fouisseur. Et elles permettaient, les buttes, de limiter le ravinement sur les pentes volcaniques et de conserver donc toutes les richesses du sol, même si à cette époque-là, la déforestation n'avait pas encore lessivé tous les terrains de cette magnifique île de Haïti, Santo Domingo. Fait surprenant, les agriculteurs parvenaient à des rendements de 50 à 60 quintaux à l'hectare. Aujourd'hui, en Afrique, en Insulinde, Malaisie, Java, Bornéo, ou en Indochine, loin des villes et de la chimie, on obtient des rendements de 2 à 3 tonnes. Bien entendu, la culture industrielle mécanisée avec des engrais et des produits phytosanitaires parvient à 30 voire 40 tonnes à l'hectare. Mais nous n'allons pas comparer notre civilisation mécanicienne avec une civilisation qui utilisait un bâton pour planter. Il faut comparer ce qui est comparable. Il faut comparer la civilisation Taïnos du Conuco avec les civilisations européennes du blé ou du seigle ou de l'avoine en 1492. Or, que produit l'agriculture européenne jusqu'au XVIe, jusqu'au XVIIe siècle ? Elle produit 5 à 6 quintaux de céréales panifiables. Je viens de vous parler, moi, de 50 à 60 quintaux pour le manioc et les patates douces des Taïnos. La seule différence, c'est que les céréales européennes sont récoltées sur plusieurs millions de kilomètres carrés et qu'elles sont associées à une production animale complémentaire. Il n'en reste pas moins qu'en tenant compte simplement du pouvoir alimentaire du blé et du pouvoir alimentaire du manioc, c'est-à-dire 1 pour 2, le blé nourrit deux fois plus que le manioc, la civilisation du manioc amer reste quand même gagnante, puisqu'elle nourrit l'équivalent céréales européennes de 25 à 30 quintaux à l'hectare, alors que l'agriculture européenne du 15e, 16e siècle ne donne que 2 à 3, n'en donne que 5 à 6. Je mélange les produits. On peut aussi en remarquer que cette agriculture du conuco, du manioc, a des rendements égaux à ceux des civilisations du riz, de la Chine méridionale ou de l'Indonésie. Ce sont ces rendements qui expliquent les densités surprenantes auxquelles une lecture attentive des textes espagnols a conduit nos deux chercheurs, Bourra et Cook. Ils donnent à Lille, en 1491, à la veille de l'arrivée de Christophe Colomb, entre 7 et 8 millions d'habitants, ce qui représente 100 habitants au kilomètre carré, des densités égales à celles de l'Europe dense, l'Europe conquérante, l'Europe exploratrice et dominatrice du XVIe siècle. Mis à part le maïs, dans d'autres régions, seul le manioc a permis un aussi prodigieux entassement et le développement d'une société préurbaine, diversifiée et hiérarchisée. Dans le reste des îles, il faut que je retrouve ma feuille, la culture du manioc est pratiquée de façon beaucoup plus interrompue. Nous avons affaire, nous ne l'oublions pas, à des semi-nomades marins. Les Caraïbes ne sont pas des sédentaires. D'ailleurs, un anthropologue nord-américain les a appelés les sea wolves, les loups de mer. Ils ne représentent pas de forte densité, rien à voir avec les 100 habitants au kilomètre carré dont je viens de vous parler. Ils n'ont pas besoin de grosses quantités de nourriture à répartir entre des gens qui seraient guerriers, prêtres, administrateurs. Ils sont à la fois agriculteurs et consommateurs. Donc l'abati ou le brûlis amazonien, l'ichali ou le jardin des îles Caraïbes suffisent avec un cycle de 2 ans. Cette culture, donc, est faite en discontinuité et en itinérance. Mais c'est la même que celle de Hispaniola. C'est un conuco, si vous voulez, pour nomades. Je ne m'étendrai pas, parce que je ne vais pas vous retenir trop longtemps, sur l'Ichali ou le jardin caribe, tel qu'il nous était décrit par le père Breton, toujours dans les années 1665. Il nous montre comment les hommes faisaient certaines tâches et les femmes d'autres. Il y avait donc autour du manioc une répartition sexuelle avec toute une symbolique et tout un renvoi à la transcendance, à la mythologie, qui nous font encore penser à une véritable civilisation. Il faut cependant remarquer que ni Saint-Domingue et ses Taïnos, ni les petites Antilles, ni même les Guyanes, avec leurs Caribes et Caninago, n'ont pu s'opposer à l'arrivée des Européens. Certes, leur nourriture est moins tonique, nous venons de le dire, elle nourrit moins que le blé, mais cela n'explique pas tout. Certains ont constaté que le travail du manioc ne nécessitait pas un calendrier agricole épuisant. Il laissait énormément de temps libre. Pourquoi donc chercher un outillage plus compliqué? Pourquoi chercher d'autres techniques en allant les prendre chez des voisins ou d'autres civilisations, surtout dans un continent qui s'étend en latitude, en accumulant les changements climatiques? Au fond, comme l'a avancé Pierre Chaunu dans son Amérique et les Amériques, la masse énorme des loisirs explique que la civilisation du manioc amer, comme d'ailleurs celle du maïs, n'ait été qu'agricole et donc incapable de résister aux envahisseurs européens. Nous verrons d'ailleurs tout à l'heure que le manioc, jusqu'au XXe siècle, n'a conquis que les civilisations agricoles, stables, relativement pacifique. Les Européens, quant à eux, ne l'ont abordé que très tard. Vous êtes sur Campus FM et vous retrouvez l'encyclopédie sonore de Campus FM sur 96.7. Rebon après-midi. Tout à l'heure, je vous ai présenté les deux premiers chapitres d'une nouvelle série de cette encyclopédie sonore consacrée au manioc comme civilisation, qui concernait l'ethnobotanique du manioc, dans laquelle nous avons retrouvé les origines linguistiques, archéologiques et historiques du manioc. Nous avons désigné le point originel comme étant le Brésil. Nous avons ensuite découvert que de ce Brésil, en montant vers les Antilles, les Grandes Antilles, le manioc avait produit une civilisation préurbaine de grande envergure, la civilisation du manioc amer de Saint-Domingue. Et comme je craignais de ne pas avoir de temps, j'ai raccourci et je ne vous ai pas parlé de sa variante caraïbe, l'Ichali, telle que le père Breton nous la décrivait à ce moment-là. Avant donc de vous parler de la préparation du manioc, ou au fond, en introduction à cette préparation, puisqu'avant de préparer le manioc, il faut le cultiver, le planter, le récolter, je vais donc vous parler du jardin. Et nous parlerons ensuite des dérivés du manioc. L'Ichali, ou le jardin caraïbe, et tel que nous le décrit le père Breton, durait plus de 2 ans. Rare, mais bien plus souvent, moins. Tout dépendait des grandes courses, comme disaient les missionnaires, des Caraïbes à travers les îles et jusqu'au continent. Cette agriculture de jardin repose sur l'abati. L'abati, c'est un terme qu'on connaît encore bien en Guyane. Jadis, aux Antilles, on parlait du dégrat ou dégradé. C'est en fait un défriché dans une forêt primaire ou secondaire, à la hache et ensuite au feu. Une fois qu'on a enlevé les plus grosses parties de la forêt, on laisse les souches les plus importantes et entre elles, on va planter le manioc et tout ce dont on a besoin et le récolter. On abandonne, c'est en tout cas la pratique en Amazonie aujourd'hui, au maximum au bout de 8 à 10 ans, après épuisement des sols. Bien entendu, l'agriculture d'Hispaniola reposant sur le conuco n'a rien à voir avec cette agriculture du défriché ou de l'abati qui est itinérante. Je vous propose de vous lire maintenant un petit extrait du dictionnaire caraïbe français du père Breton, édité en 1665, qui nous parle de l'Ichali. Ce sont les femmes qui pratiquent la culture dans ces jardins. Ils sont situés assez loin des cases, jusque sur les mornes. Mais ce sont les hommes qui, collectivement, préparent les abatis. Les hommes forts jettent 200 pas carrés de terre, pêle-mêle, puis ils boivent du wikou tout le reste du jour. 6 semaines après, ils mettent le feu dans le jardin en plein midi. Au fort de la brise, du côté d'où vient le vent, il faut encore un nouveau vin pour balayer. La suite est un travail de femme. Elle plante le manioc, les patates, les ananas, avec un gros bâton pointu. Elle sarcle et nettoie. Après 2 récoltes, on abandonne l'emplacement. On voit donc comment on plante, on sarcle, puis on récolte ces fameuses racines. Il s'agit à ce moment-là aussi bien du manioc doux que du cramanioc. Parlons d'abord du cramanioc. Je vous ai dit tout à l'heure que son origine est sans doute camagnem, que le père Breton cite comme désignant le manioc doux. Mais le père Labat, dans une édition de 1722, avait une autre explication. Il nous disait: il y a une espèce de manioc qui est exempte de cette qualité dangereuse. On l'appelle camanioc, comme qui dirait le chef des maniocs. Laban nous suggère donc qu'on a mis devant une petite particule, une désinence, qui vient certainement pas du français, mais soit de pratique grammaticale africaine, soit d'une pratique amérindienne, qui donne une dimension donc supérieure au manioc, ka manioc, le manioc au-dessus, le chef des maniocs. Pourtant, ce manioc n'est guère apprécié. Le père Breton, qui est donc un des premiers témoins, nous dit « C'est une racine pareille au manioc, mais non venimeuse. On la rôtit sur les charbons, puis on la mange comme une patate, mais elle n'est pas aussi savoureuse. » Presque 150 ans plus tard, Charles de l'Hiver, un jeune officier du régiment de Champagne qui avait été envoyé en garnison à la Martinique et qu'on envoie en poste à la Trinité, où on vient d'ouvrir le fort qui donne sur la baie de Trinité et la batterie Sainte-Catherine, il y reste de 1779 à 1785, c'est-à-dire presque plus de 5 ans, et comme il n'a rien à faire à Trinité, eh bien, il parcourt les habitations, il interroge, il regarde. Et c'est l'un des rares, pour le XVIIIe siècle, à nous parler avec autant de précision de ce fameux camagnoc. Voilà ce qu'il écrit. Il y a aussi une autre espèce de racine appelée camagnoc. L'arbuste est plus fort que celui du manioc et la racine n'est pas dangereuse. On le mange après l'avoir cassé net comme une rave. Et il explique, le camagnoc étant plus long à venir, n'est pas si commun que le manioc. Ce qui est surprenant, c'est que lorsqu'on interroge les agronomes d'aujourd'hui, ils vous disent que le manioc doux, le camagnoc, se récolte plus rapidement, parfois au bout de 8 mois, alors qu'il faut attendre un an, voire 18 mois pour récolter le manioc amer. Quant à là-bas, vous avez vu tout à l'heure, il nous a expliqué que c'était le chef des maniocs, et Breton nous dit qu'il n'est pas aussi savoureux qu'une patate. Allez comprendre, qui faut-il croire? Toujours est-il que ce camagnoc ne pose aucun problème de consommation. Vous le retirez du sol, vous l'épluchez, vous le mettez à bouillir ou vous ne l'épluchez pas et vous le mettez sous la cendre d'un foyer, et puis vous le mangez. Notons cependant que ce manioc doubou peut être utilisé de la même façon que le manioc amer, c'est-à-dire que vous pouvez en faire de la bouillie, que vous pouvez en faire de la farine, vous pouvez en faire des gâteaux, vous pouvez en faire des toutes sortes de préparations, vous pouvez en faire de l'alcool. Nous le verrons tout à l'heure quand nous parlerons des dérivés. Le problème, et surtout la chance des Amérindiens, c'est que le manioc amer était à la base de leur alimentation et pas le manioc doux. C'est l'option manioc amer qui explique toute leur civilisation. Ce légume toxique, je vous le rappelle, contenant de l'acide cyanhydrique, doit donc être épluché une fois déterré. Les tubercules sont mis à tremper dans des canaux, n'oublions pas qu'on appelle canaux tout récipient allongé, canoë, ça veut encore un mot qui nous vient des Caraïbes et qui désignait pas nécessairement une embarcation, mais tout récipient, un vaisseau, comme le vieux français l'entendait. Donc ces canaux permettent de conserver à l'abri de l'eau les tubercules épluchés pour éviter l'oxydation, parce qu'il est bien entendu que vous n'allez pas récolter, vous n'allez pas râper et préparer toute votre récolte en une seule fois. Donc vous gardez dans un canot plein d'eau vos maniocs épluchés. À ce moment-là, vous allez les râper, et l'on dit grager. Ce terme est extrêmement ancien, puisque on le retrouve, et vous n'allez pas être étonné, je vais encore vous parler du père Breton, qui nous décrit cette grage, mais j'ai préféré une autre description, celle, bien entendu, que l'on retrouve en Guyane, d'où j'aurais aussi bien pu vous parler il y a quelques années. Le texte que je vais vous lire est celui de Bajon. Bajon était un médecin du roi de France, bien entendu, dans la colonie de Cayenne, et il écrivait vers 1770. Que dit-il ? Les Indiens prennent une planche épaisse de bois dur d'environ 2 pieds de longueur et y incrustent profondément de petits fragments de pierre rangés par ordre de manière à faire saillir leurs parties les plus anguleuses. Ce témoignage permet de comprendre pourquoi sur beaucoup de sites amérindiens, à la Martinique, à la Guadeloupe, bien entendu en Guyane, on trouve soit pour les Guyanes du quartz laiteux, soit à la Martinique du jaspe, jaspe rouge provenant généralement de la presqu'île de la Caravelle ou de la région de Sainte-Anne dans le sud. On s'est pendant longtemps demandé qu'est-ce que c'était que ces morceaux. Eh bien, c'est avec ces petits éclats que les Caraïbes et avant eux les Arawaks confectionnaient donc des grages, c'est-à-dire une planche dans laquelle on fichait ces petits éclats, et il suffisait ensuite de passer en frottant la racine de manioc pour la transformer en bouillie. Une chose est assez surprenante, c'est que des témoignages anciens du XVIIIe siècle, soit venus de Hollandais ou de Juifs coureurs de bois, car les Hollandais du Suriname utilisaient beaucoup de judéo-portugais pour leur talent linguistique, et peut-être pour leur facilité à s'allier avec les Amérindiens ou les descendants d'Africains, ils n'avaient moins de préjugés que les Européens, et ils couraient les bois, et certains rapportent qu'il y avait une tribu appelée les Wends ou les Wen, dont la fonction était faiseur et vendeur de grages. Et comme celui qui rapporte la chose, un Européen en visite au Suriname, ne savait pas ce que c'était qu'une grage, il précise que c'est une sorte de râpe. Cela confirme ce qu'on commence enfin à enseigner et à faire savoir, c'est que les tribus amérindiennes précolombiennes, loin d'être des attardés perdus dans les bois, avaient une économie d'échange à très long rayon d'action, puisqu'ils se déplaçaient de l'Orénoque jusqu'à Porto Rico, et que parmi ces produits échangés, eh bien, il y avait des grages qu'ils confectionnaient et qu'ils allaient revendre à des tribus moins habiles ou qui ne disposaient pas de la matière première. Voici pour la grage. Cette technique a peu évolué, puisque toute l'iconographie du XVIIe et XVIIIe siècle, celle bien connue et bien vendue, hein, en panneaux accrochés dans les pièces de Dutertre et de Labat, vous montre donc des esclaves africains râpant sur une planche hérissée de pointes les tubercules de manioc. Donc on n'a rien changé à tout cela, nous verrons tout à l'heure qu'on n'a fait qu'adapter à des techniques venues d'Europe le principe de base de la grage qui est lui proprement amérindien et qui est, là encore une fois, issu de l'Amérique amazonienne, du Brésil, puisque cette tribu des Wen, elle vivait entre l'Orénoque et l'Amazone. Quand vous avez râpé votre manioc, vous obtenez donc une espèce de bouillie. Il faut faire pénétrer cette bouillie dans un long tube ou boyau cylindrique dans laquelle vous allez la presser. Mais voyons d'abord comment est fabriqué ce boyau et comment les Amérindiens l'appelaient. C'était un boyau en vannerie, c'est-à-dire du roseau, le roseau d'Arrouman d'ailleurs, qui était tressé. Et, chose surprenante, il était souvent tressé par un homme, et généralement un vieillard. C'est en tout cas ce que nous apprend le père Breton, alors que beaucoup de tâches de ce type revenaient aux femmes. Ce matapi, ou matabi, d'après le père Breton, est devenu la couleuvre, parce que les Français y ont reconnu la forme de la colonne, enfin plutôt du serpentin de l'alambic modèle charentais, tel qu'il a été introduit, prétend-on, par là-bas, mais il était là bien avant lui. Bref, cet alambic très tôt utilisé dans les îles donne, par distillation, de l'alcool qui sort donc du serpentin, de la même façon que de l'eau sort du matapi amérindien, comme d'où l'assimilation de la production d'alcool et de la production d'eau empoisonnée du manioc. Les Français ont appelé couleuvre donc le long manche, le long bas dans lequel les Amérindiens pressaient la bouillie de manioc pour en extraire l'eau empoisonnée. Comment faisaient-ils pour l'extraction ? Eh bien, ils accrochaient l'une des extrémités du tube, en vannerie, à une branche d'arbre, et ils l'étiraient avec des poids de pierre. Et la propriété de cette couleuvre était donc de pouvoir s'étirer et se rétracter à volonté. D'ailleurs, plus elle séchait et plus elle se resserrait, donc ça faisait l'action véritablement d'un filtre. Je ne vous dirai que tout à l'heure comment on opérait au XVIIIe siècle sur les habitations. Que faisaient les Amérindiens ensuite ? Eh bien, une fois le couleuvrage, comme on va dire chez les Français ensuite et chez les Créoles, une fois le couleuvrage effectué, on gardait l'eau d'un côté. Nous verrons tout à l'heure au chapitre des dérivés ce qu'on faisait avec cette eau empoisonnée. Et ils prenaient la partie donc sèche, puisqu'elle avait perdu toute son eau, et la plaçaient sur un grand disque en terre cuite. Certains prétendent qu'au début, les Amérindiens faisaient cuire sur de la pierre, mais la pierre est quand même mauvaise conductrice de la chaleur. Et on peut en douter. C'est une hypothèse de Huron pour la Guyane, que les premières platines amérindiennes auraient été en pierre. Je n'y crois pas trop. En tout cas, une fois sur le disque, la cuisson peut être longue ou courte. Elle est longue si on fait de la farine, parce qu'il faudra remuer pendant plusieurs heures. Elle est beaucoup plus courte si on fait une crêpe ou galette. L'essentiel est que la platine soit placée au-dessus du feu, soit sur une espèce d'échafaud, de trépied qu'on a en bois, que l'on appelait un boucan, mot aussi d'origine tupie, soit sur une platine, celle dont je vous parlais tout à l'heure à propos de l'archéologie, munie de pieds. Dans ce cas-là, il suffit de la poser sur le feu. Pour faire de la farine, il faut prendre la bouillie, la faire sécher sur le feu, l'enlever du feu, la passer au tamis. Ce tamis, les Galibis et les Kalinagos des Antilles l'appelaient un manaret. Et ensuite, il faut la rouler avec une raclette munie d'un long manche, pour obtenir donc du couac ou une farine à gros grains. Je vais maintenant vous lire quelques témoignages sur la fabrication de ces produits, farine ou galette ou crêpe, non plus chez les Amérindiens, à Saint-Domingue ou dans la forêt des îles antillaises ou des Guyanes, mais sur les habitations après le début de la colonisation. C'est toujours le témoignage de Charles de l'Hiver, ce lieutenant à Trinité de 1779 à 1784. Que dit-il ? Eh bien, de la racine du manioc, on extrait une farine qui sert à la nourriture aux habitants qui, pour la plupart, la préfèrent au froment. Ces Espagnols, ces Français qui regardaient ce mil ou ces crêpes Kasabi avec méfiance, hein, je vous en parlais dans le début de la série, en disant qu'ils étaient à la fois attirés et terrorisés par cette plante qui, de poison, devenait nourricière, eh bien, ils ont fini par la trouver meilleure que le pain de leurs ancêtres européens. Et ils vont même d'ailleurs fabriquer des fours à manioc en transformant le four à pain sur le modèle de la platine amérindienne. Au lieu d'avoir une platine en terre, vous aurez une plaque de fonte, appelée un potin, et vous aurez en dessous, maçonné en briques réfractaires, avec le cendrier, les évents, et même très souvent une cheminée, vous aurez un four à pain sans voûte, avec simplement une plaque, mais c'est bien la convergence de la culture technique du pain et de la culture technique du manioc amer qui se retrouve sur les habitations de toutes les Antilles et même du Brésil, comme on verra avec la diffusion. Que fait-on, d'après M. Charles Delivert, de ce manioc? Quand la racine est à maturité, écrit-il, on arrache l'arbre. La racine, pour l'ordinaire, hors de terre, vient aisément. On arrache celles qui cassent avec des houes. On jette les racines dans les cuves. On les nettoie comme nos racines avec la plus grande propreté, en ayant soin de ne rien laisser de l'écorce. Cette opération faite, on grage cette racine. On appelle grager passer la racine sur une râpe de cuivre, ce qui la réduit en farine très humide et composée de grumeaux ressemblant à de la sciure de bois. Le nègre grageur a une planche sur laquelle est attachée la grage avec des clous. Un bout de cette planche est fixé dans la baille, l'autre contre son estomac. Ainsi porté, de chaque main, il prend une racine grattée et la passe sur la grage jusqu'à ce que le morceau soit achevé. Cette racine ainsi re-râpée est extrêmement froide et les habitants s'en servent avec succès pour diminuer les enflures, ôter les feux aux boutons. Cette substance farineuse qui devient prêt après son entière préparation, l'aliment des colonies, n'est encore qu'un poison mortel. Composée de sucre très froid, elle porte la mort la plus prompte dans le corps de celui qui en mange. Des habitants m'ont dit que les premières approches de la mort occasionnées par ce poison étaient de violents resserrements d'estomac qui provoquaient des évacuations par haut et par bas, des convulsions après lesquelles le malade expire sans altération dans le sang ni dans aucune partie du corps, si ce n'est dans l'estomac qui se rétrécit. Pour faire perdre à la racine ses qualités venimeuses, on la met en presse. Dans les habitations où l'on récolte de cette racine, on met la racine gragée dans des sacs de grosse toile que l'on met en presse en séparant les sacs par des planches. Dans les petites habitations, on met cette farine dans des cuves percées, ayant soin d'envelopper avec des nattes de roseau pour empêcher qu'elle ne s'échappe par les trous, et on met le tout sous presse. Le suc ainsi exprimé, on passe encore cette racine à travers un crible destiné à cet usage pour ôter les gros morceaux ou les pelures qui pourraient encore se trouver. Puis on jette ce manioc ainsi préparé sur une platine de fer fondu d'environ 3 ou 4 pieds de diamètre avec un rebord. Cette platine montée sur un fourneau de maçonnerie est échauffée au point d'ôter toute humidité à cette racine. Le nègre chargé de cette besogne doit constamment remuer pour empêcher que la farine ne s'attache. Pour être bien faite, elle doit être très sèche, par petits grumeaux et ayant un petit ton jaunâtre. Elle a perdu alors toutes ses mauvaises qualités. Elle est rafraîchissante et de facile digestion. On la met dans des barils et on la sert dans des endroits secs. On la mange sèche ou humectée, soit avec de l'eau, soit avec des sauces ou du bouillon. Cette farine se prépare encore d'une autre façon, qui est Ah, il faudrait que je retrouve. Mais si je ne le retrouve pas, ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer comment et vous faire remarquer comment tout ce que les Caraïbes utilisaient en matière végétale, bois, vannerie, est maintenant devenu du métal. Vous avez vu que la grage est en cuivre, la platine est en fer et on utilise des tonneaux. Voici l'autre matière dont parle Charles de l'Hiver. Quand elle est sur la platine, le nègre, au lieu de remuer, aide à la liaison et en fait une espèce de galette mince, cassante et un peu croquante. On l'appelle alors cassave. Tous les morceaux qui n'ont pas passé au travers du tamis en séchant sur la platine se pilent dans un mortier pour en faire une sorte de farine qui sert de boisson au nègre. On fait aussi sécher le suc du manioc mis en presse, ce qui produit une poudre blanche comme neige qu'on appelle mouchache. Je ne vous en dirai pas plus sur cette boisson ni cette mouchache, puis ce que ce sont les dérivés dont nous parlerons dans le prochain épisode. En revanche, je vous donne cette information qui ne manque pas d'intérêt. Que préféraient les gens de la cassave, crêpe ou galette, ou de la farine et du couac? Eh bien, une enquête dans les écrits anciens nous montre que les Amérindiens préféraient, du continent, préféraient la galette, comme d'ailleurs ceux des îles. Ils préféraient la cassave. En revanche, les Tupis, ainsi que tous les Indiens du continent, et sans doute aussi les Caraïbes, préféraient la crêpe de cassave. Les Français des Antilles ont adopté la cassave. En revanche, les Français des Guyanes et les Portugais ont adopté le couac. D'autant plus que, comme vous le savez, les Portugais ont occupé la Guyane pendant près de 14 ans, au tournant du 18e et du 19e siècle. J'espère que tout cela vous donnera bon appétit ce soir. Vous êtes sur Campus FM et vous venez d'écouter le 3e épisode consacré à la préparation du manioc sur les habitations et chez les Amérindiens dans la série de l'encyclopédie sonore de Campus FM consacrée au manioc. À tout à l'heure. Vous êtes à l'écoute de Campus FM 96.7. Nous reprenons et nous terminons avec le dernier épisode de l'émission Encyclopédie sonore de Campus FM, consacrée en ce moment au manioc. Nous avons, dans les chapitres précédents, découvert que le manioc était une civilisation originaire du Brésil et qui s'est étendue dans toute l'ère circum-caraïbe. Nous avons ensuite vu que cette civilisation avait donné des densités et un niveau de culture religieuse, sociale et agricole dans l'île de Saint-Domingue, appelée par les Espagnols Hispaniola. Nous venons de voir ce qu'on faisait de ce manioc, du manioc doux, mais surtout du manioc amer, les Amérindiens d'abord, et les colons français, puis leurs esclaves, puis ensuite l'ensemble du monde créole, sur les habitations avec ce manioc amer, indispensable à la vie des habitations. Nous allons voir maintenant la quatrième partie avec les dérivés du manioc et la diffusion du manioc dans le monde depuis ce point originel qu'a constitué les Guyanes et nos Antilles. Tout à l'heure, mais peut-être n'étiez-vous pas là, je vous parlais de Charles de l'Hiver, ce jeune officier français en garnison à Trinité dans les années 1770-1780, et qui observait tout. Et je vous ai dit, j'arrête parce qu'il nous parle de la mouchache, il nous parle de farine, il nous parle de boisson qu'on sert aux nègres à partir de l'eau. Eh bien, revenons sur lui. Que nous dit-il ? Il dit que lorsqu'on a passé les morceaux de bouillie, la bouillie de manioc, lorsqu'on l'a passé au manaret, le fameux tamis des Caraïbes, eh bien, il en reste des morceaux, et que ces morceaux, on les récupère, on les pile, et on va en faire une boisson. Ben, en fait, c'est simplement une adaptation, très simplifiée, de ce que faisaient et continuent à faire les Amérindiens, avec l'eau de manioc, ou la bouillie de manioc allégée et fermentée, que nous appelons vulgairement cachiri. Il nous parle aussi d'une poudre blanche comme neige qu'on nomme mouchache. Que de bêtises ne lit-on pas et n'entend pas à propos de mouchache, ce mot dont j'ai même vu sur un site internet de la Guadeloupe qui désignerait maintenant des bonbons coco, servis aux touristes. Mais pour les touristes, on est prêt à toutes les abjurations sur sa propre culture. Quand est-ce que cela arrêtera ? On en fait donc de cette mouchache, qui d'ailleurs dans les dictionnaires français veut dire amidon, en poids, on en fait de l'amidon, de la poudre, mais aussi des gâteaux qui ressemblent à nos échaudés. Et là, c'est Charles de l'Hiver qui parle. Vous savez bien que ça s'appelle des gâteaux mouchaches, et qu'on peut les faire aussi bien d'ailleurs avec de la farine de toloman, mais c'est moins bon, enfin, c'est mon avis. Ces gâteaux mouchaches, ils sont croquants, nous dit Charles de l'Hiver. Et ils sont si remplis de filaments que souvent la gencive en est écorchée. Ou elle n'était pas assez tamisée, sa farine, ou bien il avait les gencives très sensibles, et il est vrai que les dentistes n'étaient alors que des arracheurs de dents. Terminons avec Charles de l'Hiver qui nous dit « On doit avoir attention de jeter les os qui ont servi au lavage du manioc » dans un endroit où le bétail ne puisse aller, pour éviter les dangereux effets du poison. Et nous revenons sur ce problème, sur ce drame du manioc, c'est qu'il est un poison, il produit du poison. Ce qui surprend d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas accusé, tous les nègres empoisonneurs dans les procès qui s'échelonnent dans toutes les Antilles et les Guyanes du XVIIe et surtout au XVIIIe siècle, où il y a une véritable folie de l'empoisonnement et qui va durer jusqu'à la fin de l'esclavage, on n'a jamais utilisé, ou en tout cas on n'a jamais accusé les empoisonneurs d'avoir utilisé de l'eau de manioc ou de l'extrait de manioc pour assassiner les gens. Alors, est-ce que c'est ignorance ? Est-ce que c'est toujours le grand mystère qui pèse sur le manioc ? On ne saurait dire. Si l'on écarte le poison, qui d'ailleurs peut être un bon remède, je vous rappelle que tout à l'heure, Charles de l'Hiver nous disait que c'est très bien pour guérir les boutons, et peut-être même ce qu'il appelait boutons, c'était des furoncles, et pour soigner certaines affections cutanées. Il y a d'autres usages plus sympathique, plus alimentaire, dirons-nous, du manioc en dérivé. D'abord, il y a la fameuse farine dont nous venons de parler, la farine. Pour qu'elle soit blanche et fine, eh bien, il suffit de prendre ce que les Guyanais appellent du couac, de la passer à la meule et de la recuire légèrement. Cela vous donnera de la farine d'amandioca qui a nourri les habitations du nord-est brésilien pratiquement jusqu'à la fin du 19e siècle. Je vous rappelle qu'ils n'ont aboli l'esclavage, eux, qu'en 1883, de façon préalable et définitive, en 1885. Et donc, ils ont nourri la population servile de leurs habitations avec cette farine. En Guyane, on faisait avec la mouchache, ou mouchache, la fine farine entraînée par l'eau, avec du sucre, avec des aromates, ce qu'on appelait du sissipa. Je suis bien sûr qu'aucun de mes amis guyanais ne sait plus ce que c'est que le sissipa du XVIIIe siècle, qui était l'équivalent de ce que nous décrivait Charles de l'Hiver, puisqu'aujourd'hui, les sissipa, hein, ce sont des bonbons coco, des espèces de locho antillais. Comme quoi, même en matière de bonnes choses, tout se perd. Cette véritable friandise, à mon avis, c'est l'équivalent exact du gâteau moustache entier. Passons maintenant à des choses qui vont nous transporter plus loin. Les grandes fêtes durant lesquelles les Caraïbes s'abreuvaient de boissons s'appelaient des wikou ou wekou, nous dit toujours le père Breton dont je vous ai parlé il y a 3 et 4 épisodes maintenant. Un autre témoin, un certain Laborde, qui écrit en 1674, nous dit que cette façon de boire tout le temps s'appelait Kurana Wiku. Et les Français de l'époque, parce qu'ensuite ils ont oublié ce terme, ont créé un mot qui s'appelait Kawine ou Kakuine. Et ils appelaient les grandes fêtes et beuveries des Caraïbes des Kakuinages ou Kawinages. Laborde nous dit Kawine, c'est boire toute la nuit et tout le jour sans manger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vin. En fait, tous les Amérindiens de la zone littorale comme de l'intérieur, dans les Guyanes comme dans les îles, confectionnent et consomment une boisson fermentée appelée communément kachiri. En réalité, kachiri est un dérivé d'un mot kalina ou kalibi, kachili, qui désigne l'eau de manioc, telle qu'elle coule de la presse de la couleuvre, celle que les Caraïbes de la Dominique appellent aujourd'hui, puisqu'ils ont oublié le mot, vieux de l'eau manioc. C'est ce suc ou la bouillie obtenue par grajage qui, étendue d'eau et fermentée naturellement à l'air libre, donne la fameuse boisson alcoolique. En réalité, il existe beaucoup de variétés de boissons. Rien qu'en Guyane, nous avons le kachili, le palino, qui en correspond au mot galibi payaourau. Il y a le paya. Il y a, bien entendu, le wiku ou viku, qui à un moment est passé dans le créole. On fait même une sorte de moutarde appelée kabiou, qui est consommée avec du sel et du piment pour justement relever le couac ou la cassave. Marcel Hureau, Jean-Marcel Hureau, un spécialiste et un défenseur des Amérindiens de la Guyane française, attribuait la consommation immodérée d'alcool dont on accuse les Amérindiens depuis le XVIIe siècle au fait qu'ils avaient goûté aux alcools européens, et en particulier au tafia, et qui se sont pervertis au contact de la civilisation européenne, représentée bien entendu non par les Blancs, mais par les créoles guyanais, ou même, dans le cas des Petites Antilles, leurs compagnons d'infortune africains, avec lesquels ils ont cohabité au moins pendant 50 ans. On reconnaît là toujours le syndrome du bon blanc. Tout est de notre faute ou de la faute de ceux que nous avons fait. En réalité, quoi qu'en dise Hureau qui prétend que les Amérindiens feraient peu usage, moi je puis témoigner que le kawinage est une réalité. On boit du kachili ou du wiku toute la nuit et le jour sans discontinuer et sans boire dans les fêtes amérindienne du Maroni auquel j'ai pu participer. Alors, Hureau vous dira que oui, mais il y a moins d'alcool que dans le rhum ou dans le vin. Bon, ces analyses, il est le seul à les avoir conduites, font apparaître une valeur de 100 grammes d'alcool par adulte et par jour. Bah, comme Hureau ne nous dit pas quel est le volume ingéré, mais il nous dit simplement que ça fait plus que le 2000 litres d'alcool que consomme un créole, nous en resterons là. Ce qui est certain, c'est que ce wiku ou kassili, ou tous les noms qu'on a pu lui donner, n'était pas consommé en permanence, qu'il était ritualisé. Donc, on n'avait pas dans la société traditionnelle amérindienne d'alcoolique, tel que, effectivement, la société d'habitation, la société esclavagiste coloniale en a produit, des gens qui buvaient pour oublier. Là, ils buvaient parce qu'il y avait une occasion rituelle, la fin de certains travaux agricoles, des fêtes de rites de passage accompagnant la femme ou l'enfant, les fêtes de naissance, de mort, à chaque fois était l'occasion de boire. Mais on ne buvait pas pour boire sans autre raison que plonger son gobelet dans le dans ce qu'on appelait déjà un canari, mot caraïbe, un canari de Cachiri. Revenons au mot moussache. Pour vous amuser un peu, je vais vous donner l'origine que lui attribue le père Labat. Selon lui, le mot moussache vient de l'espagnol muchacho. Et il, je vous cite ce qu'il écrit, édition de 1745, muchacho qui signifie enfant, parce que la moussache est comme qui dirait l'enfant du manioc. C'est pas idiot puisque la moussache c'est l'eau qui sort de la couleuvre, comme l'enfant sort du ventre de la mère. Vous savez bien que les gens procèdent souvent par assimilation ou par approximation des faits ou des choses qu'ils voient. Je vous précise quand même que les Caraïbes appelaient Éhuqueu, d'après le père Breton, ce lait de pressage du manioc, et que moussache n'est pas un mot d'origine amérindienne. C'est une certitude. Les dérivés du manioc, eh bien, il y en a quantité d'autres, mais ils ne concernent plus les Amérindiens. Ils concernent l'industrie agroalimentaire européenne, et avant d'en arriver là, puisqu'elle ne s'est décidée à s'occuper du manioc que très tard, fin 19e, début 20e siècle, nous allons d'abord voir quelle diffusion s'est opérée pour les maniocs avant la grande ère de la révolution industrielle. Manioc doux et manioc amer ont connu deux destins différents, dont l'historiographie, alors je ne parle pas des guides culinaires ou touristiques, ne parvient absolument pas à démêler clairement les particularités. Je pense, moi, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas de quel manioc ils parlent et que peut-être ils n'ont jamais vu un pied de manioc. La question de la diffusion mondiale des plantes américaines a pourtant fait l'objet de très longues recherches par l'École pratique des hautes études de Paris, qui a édité en 71 l'Atlas des cultures vivrières. N'existe pas à la Martinique, ni la bibliothèque Schellcher, ni la bibliothèque universitaire. Mais j'espère qu'une copie, une photocopie, finira par nous arriver. Et nous découvrirons que la carte numéro 10 est consacrée au manioc et qu'elle nous révèle des choses assez extraordinaires. En effet, on constate que les Espagnols et les Portugais, qui découvrent le manioc en découvrant l'Amérique, ne le ramènent pas chez eux et ne l'ont jamais cultivé dans leur terre natale. Il en va de même, d'ailleurs, pour la colonisation française. Il en va de même pour tous ceux qui accompagnaient les colonisateurs, c'est-à-dire Italiens, gens du Maghreb. Le manioc n'a jamais pénétré l'espace méditerranéen. C'est au point que, lorsque l'Algérie était française, les experts agronomes avaient tenté, pour améliorer le bétail, pour améliorer les sols, pour faire des fourrages, d'introduire différentes variétés de manioc auprès des populations indigènes, comme on disait à l'époque. Ça a été la résistance totale. Jamais le manioc n'a été cultivé de façon significative ou même de façon toute simple en Afrique du Nord et dans toute la Méditerranée. Petit Jean Roger, je parle de Jacques, le père, le regretté père, en étudiant les témoignages espagnols, celui que je vous lisais dans le premier chapitre, ou des témoignages français concernant en particulier la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Christophe, la Dominique, Saint-Vincent, a montré combien les Blancs, finalement, avaient une perception ambivalente de ce manioc. C'est à la fois une nourriture et un poison. Et il suppose, pour être consommé, la connaissance d'un secret de fabrication qui est celui de gens qu'ils vont être amenés, sinon à exterminer, mais du moins à opprimer, à maltraiter et dont ils peuvent supposer qu'ils n'ont qu'une idée, c'est de se débarrasser d'eux. Comment faire confiance à des gens dont on sait qu'ils sont vos ennemis ? Il écrit « Les Français conservent une crainte superstitieuse à l'égard de cette mutation inexplicable. » Et moi j'ajoute « Si, comme nous le rappelaient les deux compères opposés en religion, Jean de Léry et André Thévet, à propos de la découverte du maniot, qui signifierait « don de Dieu », le maniot est un don de Dieu pour les Amérindiens, mais pour les Européens, il est longtemps resté un peu une plante du diable. Pourtant, la famine aidant, les colons se sont rapidement accoutumés à la consommation du manioc. Vous avez entendu tout à l'heure, quand je vous parlais de Charles de l'Hiver, qu'il disait que dans les années 70-80, eh bien, tous les blancs créoles mangeaient du manioc et le préféraient au pain de France, ou même le pain fabriqué localement. C'est les nouveaux venus, les blancs d'Europe, qui continuaient à avoir une crainte pour ce manioc. Outre que c'était la nourriture des nègres, donc dévalorisation immédiate, par ailleurs, c'était une nourriture qui pouvait être empoisonnée. J'ai relevé dans la correspondance militaire ou des gouverneurs pour toutes les grandes batailles de la fin du XVIIIe siècle, prises en particulier de la Martinique par les Anglais, que chaque fois qu'il y avait une épidémie de dysenterie, qui en réalité était du typhus ou de la fièvre jaune, eh bien, on accusait la cassave ou la farine de manioc en disant « Les soldats qui viennent de France sont habitués au pain de farine, au pain blanc, et on leur donne de la nourriture de nègre qui leur détruit les intérieurs. Ils en meurent, le manioc tue nos soldats. » Il faut attendre les progrès de l'épidémiologie pour qu'on sache que le malheureux manioc n'y était pour rien. Je vais vous dire maintenant jusqu'où est parvenu le manioc. C'est triste à dire, mais le manioc, c'est le compagnon de l'Amérique esclavagiste. Il fait la conquête de l'Amérique espagnole et portugaise parce qu'il accompagne l'esclavage. Il fera la conquête de la Louisiane parce que les colons français de Saint-Domingue, chassés par Toussaint Louverture et la Révolution haïtienne, se sont repliés à la Jamaïque, puis en Louisiane en emmenant leurs esclaves et en continuant à manger, eux, comme leurs esclaves, du manioc. Auparavant, le manioc n'avait pas pénétré l'Amérique du Nord. Suivons le manioc jusqu'à Ceylan, jusqu'en Inde, jusqu'en Insulinde, jusqu'à Formose, l'actuel Taïwan, parce que les Portugais et les Hollandais ont colonisé ces territoires. Il en va de même de l'actuelle Indonésie, qui devient un des plus gros producteurs de tapioca aujourd'hui. Et je terminerai en vous disant, quand enfin les Européens se sont-ils décidés à manger du manioc ? Eh bien, c'est lorsqu'au début du XIXe siècle, ils découvrent que le manioc permet de digérer le lait. Il y a des enfants qui ne digèrent pas le lait, les malades, les vieillards. Or, le lait a une valeur nutritive, ajoutée à celle du manioc d'ailleurs, qui permet des convalescences extraordinaires. On donne aussi du manioc à ce moment-là aux sportifs. C'est le dopant des premiers Jeux Olympiques, le manioc. Personne ne vous le dira. Mais observez le régime alimentaire des athlètes et vous découvrirez confirmation de ce que je vous disais. Résultat, sitôt que les Européens voient l'intérêt pour eux, ils se mettent à le fabriquer en grand, à le cultiver en grand, et la grande vague de colonisation européenne, celle qui suit la révolution industrielle, sera accompagnée d'une introduction du manioc en Indochine, en Afrique occidentale, en Afrique centrale, pour nourrir les populations et pour fabriquer de la fécule. Le tapioca, qui dérive d'un mot tupi, tipiac, qui désignait l'eau qui coule de la couleuvre de manioc, a fait aujourd'hui la conquête du monde. Si vous cherchez vos racines, aux Antilles ou la Guyane, eh bien, vous les trouverez dans la racine du manioc, bien évidemment, car nous sommes, sinon les enfants, du moins les petits-enfants du manioc, et sommes héritiers d'une culture originellement et strictement brésilienne. Vous êtes à l'écoute de Cansmus FM 96.7. Vous venez d'entendre le dernier chapitre de l'émission consacrée au manioc par la série Encyclopédie sonore Campus FM qui vous a été présentée aujourd'hui par Vincent Huyghe-Belrose, ex-universitaire, qui vous invite à lire son ouvrage publié par Desormeaux, Vincent Huyghe-Belrose, de A à Z, la cuisine créole Desormeaux, vendu par les éditions Desormeaux depuis 1997, dans lequel vous trouverez toutes les précisions voulues sur le manioc, et puis de jolies photos sur des préparations, et quantité d'autres produits de notre savoureuse cuisine créole des Antilles et de la Guyane. Vincent Huyghe-Belrose a enseigné à l'université jusqu'il y a 2 ans et maintenant il se consacre au patrimoine archéologique, mais vous voyez que l'archéologie mène à tout, au patrimoine culinaire. Vous avez entendu dans une première partie l'ethnobotanique du manioc, dans une seconde partie la civilisation du manioc amer d'Hispaniola, dans une troisième la préparation du manioc amer sur les habitations, enfin les dérivés du manioc et la diffusion mondiale du manioc. Vous écoutiez l'encyclopédie sonore Campus FM sur Campus FM 96.7. Bonne soirée à tous.